Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Est-ce un conte, est-ce un cauchemar? Les deux, en fait, l'un aidant à supporter l'autre, à survivre. Les deux se mêlant dans l'univers de Saravut, ce jeune garçon cambodgien qui, comme tant d'autres, découvre à 11 ans la face la plus noire de l'humanité, la haine. Le lecteur aussi a besoin des instants de poésie, de ces phrases courtes, rapides, comme s'il ne fallait pas s'attarder dans ces lieux putrides et malfaisants. Comme lui, Saravut, qui n'a qu'une mission, un but, un espoir, rejoindre sa famille. Ce roman bouleversant, inspiré d'une histoire réelle, s'intitule « Avant la longue flamme rouge » et il est édité chez Calman Lévy et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Guillaume Cyr. Bonjour Guillaume Cyr.
Bonjour.
Voilà, alors je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse-Capitole. Le droit mène à tout, y compris au roman et à la poésie, parce que je sais que votre violon d'Ingres est la poésie aussi.
Oui. Ça a commencé par là, c'est encore le cas aujourd'hui, l'effort sur le pur langage, la découverte d'un langage qui nous est propre et qui d'abord doit être travaillé comme étant autonome, avec une certaine cadence, qui ensuite peut aller du coup vers le roman, mais je suis arrivé au roman par la poésie.
Oui, voilà. Alors, quand vous dites « je suis arrivé », vous en êtes à votre quatrième roman, magistral roman. Je dis ça à nos auditeurs. Magistral roman qui se situe dans les années 70, où se déroulaient de nombreux conflits sur la planète, particulièrement en Asie du Sud-Est. Alors là, c'est un contexte inextricable. Je dois vous avouer que je suis allée faire des recherches. Toute l'Asie du Sud-Est était à feu et à sang. Alors, est-ce qu'on peut rappeler succinctement, je peux le faire, mais si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez le faire pour moi, volontiers. Racontez ce qui s'est passé entre 71 et 75.
Alors, oui, bien sûr. Mais finalement, les guerres au sommet de l'horreur se ressemblent un peu. Donc, on a toujours le dieu de la guerre. Donc là, à ce moment-là, c'était Nixon qui livrait sa guerre au Vietnam. Et donc, le Vietnam était en guerre, Vietnam du Nord contre Vietnam du Sud, avec les Américains qui soutenaient le Vietnam du Sud, le Vietnam du Nord communiste, les Viet Cong. Et donc, dans cette guerre-là, le Cambodge était neutre. Au début. Mm. Mais le prince Sihanouk, qui avait décidé de la neutralité, en gros, les Américains lui ont dit, mais il faut que tu nous enlèves, on veut bien que tu sois neutre, mais fais respecter les frontières, parce qu'au nord, il y a des foyers Viet Cong, donc les Vietnamiens communistes, se servent de la neutralité du Cambodge pour attaquer, se réfugier au Cambodge et attaquer depuis le Cambodge nos armées sur le sol vietnamien. Évidemment, le prince Sihanouk disait, si je fais ça, c'est comme si je rentrais en guerre à vos côtés contre le Vietnam du Nord. Et à cause de ça, en grande partie, Nixon, les Américains, décident d'organiser avec le général Lon Nol le débarquement. Donc, ils débarquent le prince Sihanouk avec un coup d'État donc en 69. Et le général Lon Nol déclare la République, prend le pouvoir et là, fait la chasse aux Vietnamiens au nord, les Viet Cong, mais aussi, et c'est ce qu'on sait assez peu, aux Vietnamiens du Cambodge, parce qu'au Cambodge, il y a beaucoup de Vietnamiens.
Oui, oui, voilà ce que j'ai découvert. Dans
qui vivent entre eux, entre Vietnamiens, qui parlent vietnamien, mais qui ne sont pas Vietnamiens de nationalité. Ce sont des Vietnamiens du Cambodge. Et eux ont été massacrés par Lon Nol et ses armées, avec les femmes et enfants. Ça a été un massacre terrible, soutenu par les Américains, en tout cas armé par les Américains.
Mais Guillaume Cyr, si j'ai bien compris, les chrétiens également, les catholiques ont été tués.
Alors, certains, oui. Ce qui était compliqué avec les catholiques et surtout les convertis, le Cambodge était...
C'était des traîtres.
Le Cambodge était neutre depuis 1953 et au moment où une guerre civile arrive dans ces pays-là, quand vous êtes un converti, vous êtes forcément converti depuis peu, en tout cas pour la plupart, et c'est toujours, on vous soupçonne, on se dit, on croit pas que vous croyez. Oui. On se dit, il s'est converti par ambition, il s'est converti pour plaire, par opportunité, c'est le complice des colons. On voit dans la conversion tout sauf Dieu et on n'arrive pas à imaginer que ce vers quoi vous vous êtes tourné, puisque conversion, c'est ça que ça veut dire, ça soit autre chose que le pouvoir ou l'argent et certainement pas l'amour. Et donc, évidemment, on vient vous tuer d'abord, quoi, et on vous déteste déjà.
Oui. Alors bon, alors d'un côté, donc il y a le Viet Cong, c'est-à-dire le Front National de Libération du Sud du Vietnam, allié aux Khmer Rouges, également à la République démocratique du Nord Vietnam, et de l'autre, donc le gouvernement dont vous venez de parler, les Américains dont les bombardements aériens furent plus que catastrophiques, il paraît que c'est le pays qui a été le plus bombardé de tous les temps.
Ah ça, je ne sais pas le chiffre exact, parce que d'ailleurs, la compétition, à mon avis, est rude.
Oui, oui, et puis bon, mais parce que je suis allée quand même lire un peu l'histoire du Cambodge, ça m'a frappé. Et ce n'est qu'en 1975 que les Khmers Rouges débarquent, donc, enfin, agissent et surtout envahissent Phnom Penh. Alors, pour l'heure, au total, il y a eu quand même près de 2 millions de personnes tuées, mais on ne sait pas entre 71 et 75, parce qu'à ce moment-là, c'est une guerre civile, comme vous le disiez très bien hors antenne, et votre roman, justement, commence en 71. Ma question, pourquoi ce retour sur le drame alors qu'il y a eu tant d'autres guerres, tant d'autres génocides? Il y a une raison ou pas?
Alors, ce qui m'intéressait avec ce drame-là, c'était le siège. La ville de Phnom Penh a quand même été assiégée, donc comme vous venez de l'expliquer, c'était un chaos sans nom, comme nous venons de l'expliquer d'ailleurs ensemble, et le roman est le lieu de ce chaos-là. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire de roman historique dans mon roman, et c'est pour ça que ça vous a obligé, pardon pour ça, à faire des recherches.
Non, 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 au contraire, il faut que les livres nous réveillent un peu, justement, voilà. Et nous incitent à chercher.
L'idée de mon roman n'était pas d'expliquer ce qui s'était passé, mais au contraire, de faire sentir ce qu'il y avait d'inexplicable au moment où ça se passait. Mmh. Dans un roman qu'on pourrait appeler roman historique ou dans un roman encyclopédique, quand les armées communistes arrivent derrière les palmiers pour tirer, vous dites, quand vous l'écrivez, les armées communistes arrivent derrière les palmiers pour tirer. Alors que, en fait, dans la réalité, quand vous entendez que ça claque derrière les palmiers, vous partez en courant dans l'autre sens sans aller voir si c'est les rouges ou les bleus qui tirent. Et le lieu du roman pouvait d'abord rendre compte de ce chaos-là, qui a été vraiment un chaos en plus dans une forêt très dense, avec un fleuve au milieu, un immense lac. Le décor aussi m'intéressait, la chaleur, l'Orient, le rapport.
A priori, le décor est idyllique, de prime abord.
Oh, oui et non, hein, c'est pas la plage non plus. Hein, il fait chaud, c'est vaseux. Il y a des, c'est idyllique, l'humidité maximale, il fait très chaud. C'est idyllique, ça dépend.
Oui,
ça
dépend c'est pas le mot.
Non, ça dépend l'idée qu'on a de l'idylle.
Alors, vous vous attachez à une famille, vous avez créé donc cette famille-là, la famille In. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, c'est une famille, ce qu'on on dirait aujourd'hui, de classe moyenne. Enfin, c'est-à-dire, le père est fonctionnaire à la chambre d'agriculture. Ce sont des gens éduqués. La mère est professeure de littérature au lycée français. Donc, elle lit beaucoup. Elle lit à ses enfants. Ils ont donc deux enfants, Sarah Voot et sa petite sœur Dara. Sa petite sœur est un peu rebelle, mais comme c'est normal à cet âge-là. Ils ont un imaginaire, tous les deux, très construit. Grâce aux histoires que leur raconte leur maman.
Et une intelligence.
Voilà. Oui. Et une intelligence aiguë, mais comme beaucoup d'enfants ont, ils sont dans une sécurité totale, ils font confiance à leurs parents, ils n'imaginent pas que ça puisse basculer. Et les parents sont effectivement convertis au catholicisme parce qu'ils croient en Dieu et qu'ils se sont convertis pour ça. Pour cette raison-là, ce qui va du coup leur coûter cher.
Alors, justement, je me suis dit que ce n'était pas un manuel d'éducation, mais il n'empêche que les parents leur donnent des clés. La lecture, les jeux d'échecs, Grâce à sa mère, Sarah Voot et sa petite sœur vont apprendre la magie des mots. Alors je me suis dit, c'est vraiment une ode à la lecture à bien des moments. On sent le poids que ça a pour vous, l'importance, et on le comprend, et pour moi aussi, de la lecture, de cette ouverture justement sur d'autres mondes.
Oui, bon, ça c'est aussi un transfert en quelque sorte, c'est puisque pour moi-même ça a été évidemment très important. Et je trouve que dans l'enfance comme ça, alors c'est intéressant aussi pour des raisons narratives, mais dans l'enfance on pioche dans ce qu'on entend, on a des histoires, alors là, ils vont à la messe, ils piochent les histoires du Nouveau Testament et de l'Ancien.
Et on ne sait pas toujours ce qu'ils en font, d'ailleurs.
Exactement, ils récupèrent des personnages qui leur plaisent, Salomon le roi sur son trône, Zachée dans les branches, et puis ils entendent les histoires de l'Iliade et l'Odyssée que raconte leur mère, Peter Pan, ils récupèrent le capitaine Crochet, il y a les histoires du bouddhisme Theravada, qui est évidemment très, très présent au Cambodge, ils récupèrent notamment l'histoire du prince Vesantara et du méchant brahman Jujaka, qu'ils associent au capitaine Crochet, puis il y a Poséidon, et toutes ces histoires-là deviennent dans l'enfance cohérentes ensemble. Et l'enfant a une manière de lier les choses les unes aux autres, de les rendre cohérentes dans son intériorité et de les expliquer, de les connaître, de les juger comme étant autant réelles, si ce n'est plus que ce qui n'est pas dans les livres, qui est très belle et certain. Je pense que beaucoup d'auteurs, de poètes peut-être encore plus, et en particulier, ont gardé ça dans l'âge adulte, c'est-à-dire cette capacité à tout rendre lié, cohérent et à absorber les incohérences grâce au langage, dans le langage, dans la sensibilité qu'on a de ce que disent les mots, de ce qu'ils font sentir. Les mots vont bien ensemble les uns avec les autres et une bibliothèque, c'est toujours cohérent en fait. Quels que soient les livres qu'on met ensemble, je trouve qu'il y a un moment où ça finit par fonctionner. Les livres ne s'opposent jamais les uns aux autres.
Et en fait, cette cohérence, c'est quelque chose qu'il construit et que vous appelez le royaume, son royaume intérieur.
Oui, pour des raisons aussi narratives, pour que ce soit beau, en fait. Je voulais faire aussi une œuvre belle. Et c'était intéressant de matérialiser vraiment sa vie psychologique. Mmh. Et du coup, sa vie psychologique se matérialise ainsi. Sarah Voûte décide de construire un royaume intérieur. J'ai fait ça, d'ailleurs, je conseille aux parents de faire... J'ai fait ça avec mes enfants pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien avec les enfants. Je leur ai dit, donc, qu'est-ce que c'est le principe du royaume intérieur ? Vous dites à vos enfants... Tu as un monde intérieur qui est à toi, tu y mets ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, personne ne peut te dire ce qu'il faut y mettre ou ne pas y mettre. Donc ma fille, par exemple, elle dit « il y a des chats et des danseuses et c'est tout ». Et on lui dit « mais c'est dommage, je ne vais pas mettre autre chose ». Elle dit « ah non, mais c'est mon royaume intérieur, je fais ce que je veux ». Et donc c'est un monde d'une liberté parfaite, mmh, où on peut créer des quartiers, des villes, enlever des éléments, rajouter des éléments en imaginant ce que c'est, même si c'est pas ça dans le monde extérieur. Donc tout d'un coup, vous mettez l'Everest, l'Himalaya, vous dites là il y a une plage, vous dites on mange que des bonbons, si vous voulez manger que des bonbons, vous mangez que des bonbons, vous mettez plein de personnages et vous créez une vie intérieure. Et du coup, Sarah Voûte fait ça en l'organisant très bien. C'est là qu'il rend tout cohérent, c'est là qu'il situe ses personnages, c'est là qu'il invite sa sœur pour des grandes aventures, des grandes épopées. Ça devient peu à peu ce royaume intérieur, son monde à lui personnel. Et évidemment, du point de vue narratif, ça matérialise sa psychologie intérieure et il appelle le monde réel où il interagit avec les autres l'empire extérieur. Mmh. Donc vous avez l'empire extérieur et le royaume intérieur. Et en permanence, vous me voyez arriver, vous avez des échanges et des points d'échange. Mmh. Les yeux, les doigts, la langue, tous les sens sont des points d'échange entre votre vie intérieure et le monde extérieur, le royaume intérieur et l'empire extérieur. Et l'échange se fait continuellement. Et puis quand la guerre arrive, quand tout bascule, la question du siège, et je reviens à votre toute première question, vous me disiez pourquoi celle-là ? Parce que Phnom Penh était assiégée, la ville était assiégée. Mmh. Et quelque part, une guerre pour un enfant, c'est son corps et sa psychologie qui sont assiégés. Où tout d'un coup, l'empire extérieur devient, alors que les échanges se faisaient jusque-là dans la paix, l'empire extérieur devient une menace, et une menace terrible pour le royaume intérieur.
Donc c'est un refuge aussi, le royaume intérieur.
Ce n'est un refuge que jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le royaume intérieur a besoin de l'empire extérieur. Vous avez beau avoir une vie intérieure très riche, vous pouvez être un grand mystique, à un moment, il faut quand même que vous alliez dîner ou que vous alliez aux toilettes. Donc, quelque part, l'empire extérieur se rappelle toujours à vous. Et si vous n'avez pas la paix dans l'empire extérieur, la paix dans le royaume intérieur est intenable. Elle n'est tenable qu'un un laps de temps court. Et donc, l'idée, grâce à ça, je pouvais d'abord créer ces respirations dont vous parliez aussi tout à l'heure dans le récit onirique, je pouvais aussi donner une, non pas simplement des mots qui auraient été des mots psychologisants, de manuels de psychologie qui m'auraient ennuyé pour décrire ce qui se passait dans la tête de Sarah Voûte, mais le décrire visuellement, leur donner un sens, une couleur, des odeurs, qu'il y ait un monde personnel qui s'effondre, qui soit menacé, qu'ils doivent reconstruire avec ses mains, qu'il y ait des choses à décrire, quoi, qu'on dise pas juste ses parents lui manquent. Quand ses parents lui manquent, tout d'un coup, leur fantôme, leur silhouette disparaît sous l'Himalaya du royaume intérieur, sous ces fleurs géantes à côté d'Achille et d'Ulysse qui essayent de les rattraper mais qui n'y arrivent pas. Vous voyez, je pouvais tout d'un coup rendre beaucoup plus concret, visuel, visible et sensible la vie de mon personnage intérieur, comme souvent c'est le cas chez les enfants, et comme ne réussirait pas à le faire un vocabulaire psychologisant trop scientifique et du coup trop peu romanesque et absolument pas poétique.
Oui. Oui, alors c'est vrai que là, on voit l'effet de l'imagination chez les enfants, combien elle est grande. Et la poésie, les enfants sont des poètes, pour la plupart.
Bien sûr, parce que les enfants s'étonnent. En fait, la poésie repose sur la capacité qu'on peut avoir à s'étonner à la fois des choses qu'on voit et des mots qu'on prétend utiliser pour les désigner. Ces mots-là, on a beau nous les donner en nous en donnant les clés, en nous disant voilà à quoi ils servent, on peut s'en servir autrement. Et les choses qui nous entourent, on a beau nous dire voilà comment elles sont, on peut voir à travers. Et l'enfant a cette capacité à, d'une part, relier et d'autre part, traverser les choses et les mots qui les désignent, que peut-être un certain nombre d'adultes, parfois, perdent ou atténuent en pensant que c'est pas important, alors que c'est le sel même, oui, je crois, de l'existence, quoi.
Absolument. Guillaume Cyr, moi j'aimerais que vous nous lisiez un extrait, si vous êtes d'accord, à la page 37. Page 37. D'accord. Alors, Fusati est impressionné jusqu'à la fin de ce chapitre. Page 37. Voilà.
Fusati est impressionné par les réflexions de Sarah Voûte et de Dara à propos du pays imaginaire. Jamais elle n'aurait cru pouvoir leur lire un roman aussi long sans qu'ils ne s'en lassent. Régulièrement, elle s'arrête afin de discuter avec eux de ce qu'elle vient de raconter. Et toujours, une fois que la discussion est terminée et qu'elle leur propose d'en rester là pour la journée, ils la supplient de continuer. Elle lance des bûches dans le foyer d'une locomotive qui brûlera tout le bois qu'on sera capable de lui donner, jamais rassasié, ni en surchauffe. Ce genre de train ne peut pas dérailler. Joyeuse, elle annonce à Vichéa qu'elle a trouvé une manière de partager des choses avec Sarah Voûte et Dara, une voie d'accès aux coulisses de leurs âmes d'enfants, grâce aux hameçons des mots et aux petites ficelles accrochées à la vérité des choses. En quelques jours, l'histoire du soir est devenue une tradition qu'il faudra nourrir avec d'autres histoires aussi longues et riches que celles de Peter Pan, d'autres bûches pour le feu de la locomotive lancée à toute vitesse au-dessus des chaînes rocheuses du sommeil. Adieu, album illustré. Vous a-t-il lié à ses enfants la petite sirène, le petit prince, Tistou les pouces verts, et Vendredi ou La vie sauvage qui vient tout juste d'être publiée. Le rituel leur fournit l'occasion de discussions métaphysiques poussées, un séminaire miniature de littérature comparée. Les enfants posent à leur mère des questions difficiles. Aussitôt la lecture d'un roman achevé, ils plongent derrière la couverture du suivant. De nouvelles voix jaillissent, des décors. Les mots lancent de la peinture et rugissent. La terre mouillée est rabattue, elle craque. Les personnages arrivent en tenue. Les chapeaux à plumer des mousquetaires, les robes des dames, les voiles des navires, puis finalement, un secret met tout par terre. L'action se déploie, le volcan entre en éruption. Sarah Voûte relit plusieurs fois Peter Pan, seul dans sa chambre. Il intègre au royaume intérieur les champignons colorés sur lesquels les garçons perdus s'assoient, ainsi que cet arbre qu'on coupe le matin et qui a retrouvé sa taille adulte à l'heure du thé. Une chose, toutefois, le gêne de plus en plus. Que d'abord, il n'arrive pas à identifier parce que ce n'est qu'un brouillard lointain. Puis le brouillard augmente et se rapproche. Un nœud grandit dans le ventre de Sarah Voûte, au point de devenir douloureux. Une bille, une balle de plomb au milieu des hameçons. Il finit par avoir la certitude qu'il existe un piège au pays imaginaire. À force d'y réfléchir, il échafaude une hypothèse. Ce piège, c'est l'oubli. Wendy, John et Michael sont en train d'oublier leurs parents. Au point que Michael croit que Wendy n'est pas sa sœur, mais sa mère. Si on oublie l'Empire, pense Sarah Voot, on devient malheureux dans le royaume. Puis il conclut avec horreur qu'on ne peut se réfugier nulle part. Autrement dit, on peut tirer les ficelles des mots tant qu'on se trouve sur la terre ferme. Mais elles ne peuvent pas nous tirer du fond d'un puits. Il a la certitude d'avoir fait, grâce à James Matthew Barrie, une découverte de la plus haute importance. Un peu comme si Neil Armstrong, en posant le pied sur la Lune, s'était aperçu que cela ne résoudrait aucun problème. N'allez pas croire que vos enfants respireront sous l'eau.
Voilà. Un extrait de votre ouvrage, Guillaume Cyr, qui montre justement l'intérêt de la psychologie d'un enfant. Je me dis, finalement, oui, les parents doivent lire beaucoup de livres à leurs enfants, tant que les enfants ne lisent pas eux-mêmes. Que s'est-il passé pour la famille, une famille calme, paisible, normale, en fait, et pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ?
La famille, c'est toujours le lieu de la sécurité.
Ouais.
Quand on est évidemment un enfant, même pour les parents, c'est-à-dire qu'on organise la sécurité, c'est une construction.
Tant qu'une famille va bien.
Tant qu'une famille va bien. En tout cas, la sécurité, c'est son objectif. Et la guerre, renverse tout, et elle peut arriver à tout moment. Et c'est là que, une fois de plus, mon sujet, c'est le Cambodge, oui et non. Il n'est pas forcément géographique.
Oui.
Vous êtes avec des amis ou en famille, vous allez à un concert à Paris, vous n'imaginez pas que des gars vont rentrer avec des mitraillettes et tirer sur tout le monde au Bataclan. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout se passe bien, et pour des raisons que volontairement je n'explique pas en détail, parce que on est en pleine guerre civile et que c'est la guerre de tous contre tous.
Et ça peut se passer n'importe où.
C'est ça, pour n'importe quelle raison.
Quelle violence, finalement.
Oui, et les enfants ne les comprennent pas. Et donc, je voulais qu'on ressente aussi cette incompréhension. Je ne voulais pas expliquer exactement, mais tout d'un coup, on va venir chercher cette famille, les amener dans la forêt et tirer sur tout le monde.
Oui.
Et pour des raisons inexplicables, et qui, même si elles avaient eu leur lot d'explications, ce seraient des explications irrecevables. Mmh. Et donc, c'est pour ça aussi que dans ces moments-là, les enfants ont l'air d'être matures. Les enfants ne sont pas matures, ou ils ne deviennent pas matures pendant la guerre, mais ce sont les plus adultes quand même. C'est-à-dire que ce sont les adultes qui ont l'air d'être immatures pendant la guerre, parce qu'il n'y a aucun sens, aucune explication ne peut être donnée. Et tout d'un coup, les enfants, eux, reçoivent ce choc-là, total, soudain, et la famille éclate, et du coup, Sarah Voot va partir à leur recherche.
Oui, parce que ce qu'on voit à un moment donné, il y a un épisode à la sortie de la messe, un jeune couple, va être fait prisonnier, pris par une rafle, une sorte de rafle finalement, comme il y en a eu tant partout. Et là, Sarah Voot est étonnée, parce que le père ne réagit pas comme aurait fait un des héros de Sarah Voot. Il est étonné, peut-être même un peu déçu.
Oui, parce que tout d'un coup, il y a une rafle et qu'effectivement, son père, c'est la guerre civile, c'est ce moment-là où on voit quelqu'un se faire rafler en disant « moi, je protège les miens, donc j'ai raison de le faire ». Et juger celui qui n'agit pas, c'est évidemment terrible.
En même temps, on le comprend, il a ses enfants là à côté.
Exactement, et les enfants jugent, mais quoi qu'il fasse, est-ce que si finalement le père aurait agi et se serait fait arrêter ou tuer parce qu'il avait agi au moment de la rafle, Sarah Voot aussi lui en aurait peut-être voulu et n'aurait pas compris. On en veut toujours, parce que tout est inexplicable.
Absolument.
Astyanax, quand Hector, et je fais beaucoup de parallèles volontairement avec la mythologie, parce que Sarah Voot en est nourrie, Hector va se battre contre Achille, parce que Achille réclame sa vengeance, puisque Patrocle est mort. S'il n'y va pas, son fils le trouvera lâche et lui en voudra dans une société qui promeut la force, évidemment.
Et pourtant, il y va, et
Astyanax deviendra orphelin.
Orphelin, exactement. C'est une narration, votre ouvrage, vraiment à la hauteur du regard et de la pensée et de l'imagination de l'enfant. C'est rare en littérature, surtout quand il s'agit de violence, de guerre, c'est toujours l'adulte qui parle. Comment avez-vous fait, en fait ? Vous avez essayé de vous souvenir de choses, vous, enfants, qui vous ont frappé ?
Alors, d'abord, j'ai décidé de ne pas écrire à la première personne. parce que même si c'est une narration à hauteur d'enfant, se mettre dans la peau d'un enfant pour vraiment l'écrire comme l'enfant le ressent, il y a là-dedans une telle complexité et en même temps une telle facilité, parce que tout d'un coup le langage devient plus simplé, on a tout en... Donc que moi je trouve presque toujours que c'est raté. Et du coup, j'ai gardé quand même une focalisation externe, c'est-à-dire qu'on est à la troisième personne du pluriel, on suit l'enfant et on se met à sa hauteur sans être lui, ni le prétendre à aucun instant. Donc on le voit agir et on le voit depuis sa hauteur, effectivement.
Oui. En mélangeant les faits réels qu'il subit et puis son imaginaire.
C'est ça, on le suit comme ça. Et en le suivant, on peut aussi être étonné par lui plutôt que s'étonner à travers lui. Et je voulais que l'enfant reste aussi un mystère pour nous. Parce que l'enfant, c'est un mystère. Et quand on le voit recevoir tous ses coups et pourtant survivre et chercher quand même ses parents, il devient un héros à nos yeux, à nous aussi. Mmh. Et on peut l'admirer. Alors que si on avait vécu ça par lui, à la première personne, je trouve qu'on aurait manqué ça. Et finalement, on rend moins justice à l'enfance quand on essaye de l'imiter, oui, que quand on essaye de la comprendre.
Absolument. Nous allons faire une pause musicale, mais avant, on en parlera, parce que, en fait, je me suis dit, mais c'est aussi un conte. C'est souvent ce que j'ai dit, d'ailleurs, dans l'introduction. Vous parlez de Peter Pan. On peut penser au Magicien d'Oz aussi, à l'envers. Hein, il y a des tas de... Où je vous ai dit hors antenne, je vous ai parlé de ce film, La Nuit du Chasseur, où il y a des enfants. Il y a quelque chose, justement, du conte qui quand même comporte beaucoup, beaucoup de choses que les adultes, nous pouvons comprendre, nous pouvons extirper.
Oui, et puis il y a un invariant dans les contes. Que, évidemment, là, pas seulement dans les contes, dans beaucoup d'histoires d'enfants, que là, qui est la ficelle sur laquelle j'ai le plus tiré, c'est la perte des parents, justement.
On en parlera. On en parlera. Alors, là, c'est un choix voulu, puisque dans votre ouvrage, on en parlera peut-être pas, en revanche, pourquoi ce choix, mais c'est quand même la musique de cette époque que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de Simon & Garfunkel, qui chante The Boxer.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-la-la. La 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Winter clothes.
windows and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, 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 la. Lie, la, 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 lie, la, lie, la, 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 lie, lie, la, 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 lie, la, lie, lie, la, lie.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Guillaume Cyr, venu nous parler de son quatrième roman édité chez Calman Levy, Avant la longue flamme rouge. Nous sommes au Cambodge, mais comme disait l'auteur, en fait, on pourrait être partout ailleurs. Je rappellerai d'ailleurs à nos auditeurs qu'actuellement, il y a des enfants qui vivent des choses de ce même genre. Nous sommes au Cambodge dans les années 70. D'ailleurs, la musique que vous avez entendue était de cette époque-là. Guillaume Cyr, oui, c'est un enfant qui n'a plus ses parents. Et c'est ce qui va les retrouver, c'est quand même ce qui va le tenir debout.
Exactement, et c'est ce qui va tout d'un coup faire qu'il va rechercher dans ce fameux royaume intérieur, dans toutes ces images, toutes ces histoires que lui a racontées sa mère. Je vous disais tout à l'heure, les enfants ont cette capacité à relier les histoires entre elles. Et il va se rendre compte que toutes ces histoires racontent l'histoire d'enfants perdus, qui ont perdu leurs parents. Évidemment, dans Peter Pan, il y a les enfants perdus, les parents ne sont pas là, les enfants sont partis, les parents ne sont pas là pour aider. Et le seul adulte qui est là, c'est le capitaine Crochet, qui est un danger absolu. Dans l'histoire du bouddhisme Theravada, qui est l'avant-dernière incarnation du Bouddha Gautama, l'histoire du prince Vaisvesantara, le Bouddha décide d'être parfaitement généreux, au point même d'abandonner ses enfants à un méchant brahman qui s'appelle Jujaka. Et les enfants se font abandonner par leurs parents. Dans l'histoire, dans l'Odyssée et l'Iliade, vous avez Télémaque dans l'Odyssée qui attend son père qui ne revient pas. C'est vrai. Vous avez évidemment Astyanax ou Énée qui voit leurs parents partir, mourir dans la guerre de Troie. Et du coup, tous ces enfants qui perdent. Et évidemment, ce sont des convertis au catholicisme. J'en profite ici, en plus, sur cette radio pour parler de ça. Parce que lui, Saravout, dans sa tête d'enfant, dans son cœur d'enfant converti aussi, qui du coup est allé à la messe le dimanche, au moment où ses parents ne sont plus là, se sont fait tirer dessus, mais il ne sait pas s'ils sont vivants ou pas, il les cherche, et partout, le danger est partout. La phrase même, qui est un des sommets, ou sinon le sommet de l'incarnation et de l'humanité du Christ, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» devient là une clé dans son imaginaire, à la fois qui l'encourage à ne pas douter, à se sentir accompagné par tous ceux qui eux-mêmes se sentent abandonnés, et en même temps qui le désespèrent. Et cette clé-là est double, et cette clé-là est dans tellement d'histoires, tellement de mythes, qui racontent finalement cet abandon, et ce sentiment d'abandon qui est celui des enfants au milieu de l'horreur, au milieu de la guerre, au milieu de la douleur, au milieu de la peine. Et évidemment, c'est la clé-là du roman.
Oui, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il continue.
Exactement. C'est pas. Il continue. Il demande ça, mais il n'a pas fini.
Il n'a pas fini. Alors, il rencontre des personnages. Alors, des personnages typés. Il y en a plusieurs là. Alors, maléfiques, certains. Bon, il y a le collègue de son père, Shamroun, qui est animé par une jalousie féroce. Il y a l'homme au complet bleu. Et là aussi, on pense au danger de cet homme maléfique au complet bleu. On l'imagine très bien. Il fait peur. Et d'ailleurs, il est puissant. Il est dangereux. Il y a la grand-mère paternelle. Comment une grand-mère peut-elle se comporter ainsi? Et puis, il y a cette vieille femme, la sorcière, une guérisseuse, qui a un langage très cru, qui dit des horreurs, et qui, en même temps, finalement, c'est étonnant, parce que c'est vrai qu'en définitive, elle le sauve. Et on se dit, le mal n'est pas forcément là où on le croit.
Exactement. D'abord, tous les personnages que vous avez mentionnés avant cette vieille sorcière, ce sont des personnages qui finalement sont dans notre entourage, où qu'on soit. Et là encore, je voulais qu'on sente que la guerre peut arriver à n'importe quel moment et tout briser. Et c'est ces personnages qui nous entourent, qui sont les ambitieux.
La jalousie, l'égoïsme, oui.
Exactement. le en entreprise, vous voyez, la petite bête, quoi. Ceux qui sont mauvais dans la vie quotidienne deviennent très mauvais et très dangereux au moment où la guerre civile éclate et où la guerre de tous contre tous...
Quand tout est permis.
Exactement. Ouais. C'est là que ça devient terrible. Et, comme vous venez de le dire, les personnages qui, eux, ont l'air mauvais, la vieille qui vit seule dans sa forêt, que tout le monde appelle sorcière, et qui va sauver Saravout, peuvent s'avérer à ce moment-là être les anges qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas. Et les anges n'ont pas toujours la gueule qu'on imagine. Cette vieille dame qui soigne Saravout, comme vous dites, elle parle avec un vocabulaire cru, et finalement, tout en le soignant physiquement, ce qui demande, ce qui est douloureux, on vous soigne pas, il a pris une balle dans la tête, hein, pour être clair, on vous soigne pas ça comme ça. Il faut, ça fait mal d'être soigné, et pour vous faire mal, il faut pas vous dire tout va aller bien, tu vas avoir mal, et elle le prévient, et elle lui fait mal, et elle le soigne en lui faisant mal, et en même temps, effectivement, elle l'accompagne, et pourtant elle maintient une distance aussi grâce à ce langage cru, parce qu'il faut pas qu'il reste avec elle, il faut pas qu'il la prenne pour une mère de substitution, il faut qu'il reparte en pleine guerre chercher ses parents. Elle le sait, et donc parce qu'elle le sait, elle est pas tendre avec lui, elle le soigne physiquement et elle le renforce psychologiquement, parce qu'elle est pas là pour lui dire c'est bon,
pour le materner.
Oui, exactement, elle est pas là pour lui dire tout va aller bien. Elle est pas là pour mentir. C'est pas un succès d'année de quelque chose, c'est pas un médicament, c'est un ange. Et un ange, ça vous sauve. Et sauver, ça fait mal.
Oui. Sauve-toi. Et c'est vrai qu'il vit dans la fuite perpétuelle. Et là, tout va très vite. Tout va très vite. Et ça, vous le montrez à travers des phrases courtes. Il fuit. Il se cache. Bon, il est blessé auparavant. Il se cache. La fuite à nouveau. Il se cache chez la vieille dame. Cette descente hallucinante. Et ça, je me dis, mais c'est le Styx. C'est vraiment le fleuve de la mort. Comme vous le dites, ces berges qui se rapprochent et les tirs qui s'intensifient. Et lui qui passe à travers. Ça deviendra un film, ça. C'est pas possible. On voit les images.
Si
vous les avez rendues très visibles.
Si un jour ça devient un film, j'espère que les gens diront que le roman est meilleur. Mais parce que je veux aussi... Effectivement, dans le film, malgré tout, la caméra est dirigée. Vous êtes obligé de filmer quelque chose. Et donc, elle n'est pas panoptique, elle ne tourne pas. Et ce que je voulais aussi dans cette... Saravout donc tourne autour de Phnom Penh, il essaye de rentrer dans la ville. Vous voyez, c'est ce qui manque peut-être dans la guerre de Troie, par exemple dans l'Iliade. On ne raconte pas, évidemment, quand les Grecs sont arrivés, les Troyens ont fermé les portes, et on ne raconte pas l'histoire des Troyens qui ont été enfermés à l'extérieur à ce moment-là, et qui se retrouvaient à l'extérieur avec des Grecs partout, à vouloir rentrer chez eux et à ne pas pouvoir, parce que c'est trop tard, les murs d'Ilion, les grandes portes étaient fermées. Et là, lui, c'est pareil, il veut rentrer dans Phnom Penh, il tourne autour de Phnom Penh, et il est en ensuite sur ce radeau avec ses rives qui se rapprochent, des balles qui fusent de partout. Et c'est vrai que le roman, la littérature, permet ce que le cinéma ne peut pas faire ou pas comme ça.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Guillaume Cyr, il y a de très bons cinéastes.
Oui, c'est vrai, mais je voulais là que ça tourne ait cette vie aussi intérieure en même temps. Que la frontière entre le royaume intérieur et l'empire extérieur.
Voilà. Il y ait une fente pour entrer.
Exactement. Et oui, bien sûr, il y a de très bons cinéastes. Je crois beaucoup au cinéma, mais moi, c'est pas ça que je fais. Et j'espère que là, on sent cette espèce d'urgence comme ça, et en même temps de franges d'or comme ça, de lumière qu'on va chercher dans une horreur qui n'est pas dirigée, mais panoptique partout en même temps.
Ce qui m'a frappé, c'est cette hostilité des hommes, parce que finalement, les hommes, c'est d'abord le chacun pour soi, on a ce sentiment-là, sauf exception. L'hostilité de la nature également, il va se battre, et là aussi c'est très mythologique, il va se battre contre les forces de la nature, animaux compris. Il y a la scène du tigre, il y a les crocodiles, ils existent au Cambodge, mais ça pourrait être autre chose évidemment.
Oui, c'est ça, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est pas morale. Et donc, évidemment, en pleine guerre, la beauté devient terrible, parce que les fleurs, on se demande... vous savez, on prête, et ça encore, c'est parce qu'on est des poètes, quoi, qu'on est des sensibles. En tout cas, les sensibles, dont je fais partie, dès qu'ils voient des choses, on quelque part, leur donne un sens. Et au milieu d'une guerre, une belle fleur, ça devient une insulte. On ne veut pas la beauté au milieu de
l'horreur. La nature est indifférente.
Oui, c'est ça. Ouais. Cette indifférence est magnifique. Et cette indifférence magnifique, elle est insoutenable, quoi. Et je voulais montrer ça. Et là encore, les mots sans images, malgré tout, permettent à chacun d'aller trouver cette nature magnifique qu'il trouve magnifique, qu'il a déjà trouvé magnifique, une belle fleur, et l'imaginer dans ce moment-là, et la trouver du coup terrible pour cette raison-là. Mmh. Et je trouve que l'absence d'image permet d'autant plus ce sentiment, cette sensation de perte, de repère devant ce qui était pourtant le symbole de la beauté.
Et aussi un sentiment très actuel, on se dit, mais que fait l'homme ? Vraiment, la nature est immuable, mais c'est l'homme qui agit. Cet enfant pleure rarement, finalement.
Oui, ou je le dis peu. En fait, le piège dans l'écriture était double. D'un côté, au moins, il y avait deux grands pièges qu'il fallait éviter. D'un côté, le film d'action américain un peu idiot, où on a presque envie d'y être en se disant « la guerre, c'est super ». Tiens, le jour le plus long. Ah oui, hop, ils sont passés, c'est bon, Sean Connery fait des blagues. Ouais. Et ils gagnent. Et en même temps, le pathos absolu. Genre, les flaques, ils font que pleurer. Et puis, ce sont des... Alors qu'en fait, la guerre, c'est long. Et donc, il y a des moments où, malgré tout, c'est drôle. Il y a des moments où vous êtes en train de manger, des moments où vous êtes en train de dormir. Et donc, je voulais quand même réussir à équilibrer, pas à rentrer dans un piège ni dans l'autre. Il pleure, quand vous écrivez ça, ça devient vite... Le pathos, c'est pas loin. On imagine bien qu'il pleure, on imagine bien qu'il est désespéré, on le sent avec lui. J'ai pas besoin de le dire, ça faisait un peu sous-titre, inutile.
Alors, moi j'avais une autre explication.
Ah oui ?
Vous savez très bien que le livre échappe à son auteur, à un moment donné,
il faut le lecteur.
Donc, je me disais, finalement, justement, d'abord, il a vieilli. Je pense que d'un coup, il a perdu cette fragilité qu'on donne aux enfants. Sont-ils si fragiles que ça, d'ailleurs ? Mais je me dis, il s'est renforcé, il s'est durci pour tenir bon. Parce que s'il se met à pleurer, c'est à des moments d'ailleurs inattendus, je trouve, dans votre ouvrage. C'est que là, il baisse les armes.
Oui, vous avez raison, parce qu'il le dit d'ailleurs, je ne sais plus comment exactement c'est écrit, mais... à un moment ou à un autre, ou même peut-être à plusieurs, il dit « En gros, je pleurerai quand je retrouverai mes parents.
Voilà. »
C'est dans les bras de sa mère qu'on pleure. C'est quand tout est résolu, en fait. C'est, vous faites mal, vous attendez de retrouver... Vous savez comment font les enfants ? Ils cherchent le regard des parents.
Et après,
une fois
pleurent.
Que les parents les regardent, là, ils se mettent à pleurer. Oui. Ben, là, c'est un peu pareil. Oui. Il se dit « Il cherche ses parents, il a un objectif. Et quand il les trouvera, il pleurera, il fera le bébé, il se plaindra, tout redeviendra normal. »
Oui, c'est un fait. On se dit justement, alors qu'est-ce qu'il fait tenir ? On en a dit un mot. Il y a retrouver ses parents. C'est le leitmotiv. Et puis d'ailleurs, il a toujours en tête la phrase que disait sa mère. Il faut trembler. Il faut trembler.
Hein, pour grandir.
Pour grandir. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi... parce que... retrouver son monde d'avant, le réel. Parce que, bon, vous allez me dire, peut-être que je me trompe. Retrouver le monde d'avant, le réel, parce que finalement, il peut penser qu'il vit dans ce monde qui s'est créé.
Oui, il y a cette ambiguïté. Donc, il se prend une balle dans la tête au moment où sa famille se fait tirer dessus. Donc, évidemment, il ne voit pas les autres mourir ou être blessé. Il ne sait pas.
Oui.
Et quand vous ne savez pas, il se réveille dans la case de la vieille qui le soigne, qui elle-même n'a rien vu. Et donc, quand vous ne savez pas si vos parents sont morts ou vivants, vous êtes persuadé qu'ils sont vivants. Mmh. Et à partir de là, il se met à les chercher. Lui, il a survécu. Il n'y a pas de raison qu'eux n'aient pas survécu. Peut-être même qu'ils ne se sont pas fait tirer dessus, qu'il est le seul blessé. Il n'en sait rien. Et tant qu'on n'a pas vu le corps de ceux qu'on aime le plus morts, on ne peut pas croire qu'ils le sont. J'avais un ami comme ça qui avait perdu son père très jeune et on ne lui avait pas laissé voir le corps. Et il m'avait dit cette phrase très forte, il m'avait dit « c'est comme si mon deuil avait été enterré vivant ». Parce que voir le corps, tout d'un coup, c'est savoir que l'autre est mort. Et donc, il les cherche. Et c'est vrai que c'est ça qu'il pousse, qu'il fait tenir. Et il croit, il sent cette présence. Et en même temps, comme il s'est pris cette fameuse balle dans la tête, peut-être que tout... Peut-être que c'est déjà ça la mort, peut-être que c'est ça l'enfer, peut-être qu'il n'est déjà plus là, que le royaume intérieur est devenu cette jungle, ce chaos qu'il n'a jamais connu, avec ses animaux féroces, toute cette mythologie devenue folle, pire encore que ce que les pires histoires qu'on lui a racontées. Il y a cette ambiguïté-là, quand on est dans un monde qui devient de lui-même irréel, on se demande s'il n'a jamais été réel.
En même temps, il veut reconstruire encore et toujours son royaume intérieur, qui lui échappe. Je pense que vous aimez René Char, je crois, qui disait « Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir ».
Oui, c'est ça. C'est très... Évidemment, je pense que René Char est vraiment un immense, immense, immense poète que je ne me lasserai jamais de lire ou de citer. René Char, du coup, est beaucoup lu par la mère de Sarah Voûte et donc est important dans son monde, ainsi que Benjamin Fondane, d'ailleurs, qu'on connaît parfois moins, mais qui est largement au niveau. Et c'est vrai qu'il sent que les deux, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne peut pas sauver l'empire extérieur, c'est-à-dire retrouver sa famille, la sécurité, ce monde-là qui est précédé la guerre, sans aussi sauver le royaume intérieur. De même qu'il ne peut pas se réfugier dans le royaume intérieur en croyant que ça suffira. Il ne peut sauver le royaume intérieur que s'il sauve l'empire extérieur et vice-versa. Et c'est vrai qu'il y a toujours le social et le psychologique, les autres et soi-même. Et je voulais que dans le roman... Il sente lui-même qu'il fallait toujours reconstruire des deux côtés de la barrière pour qu'à la fin l'ensemble tienne. Et c'est ce qu'une guerre rend impossible ou rend tellement difficile que ça en est impossible.
Alors, avant que nous ne parlions un petit peu de Phnom Penh, de son arrivée à Phnom Penh, on ne déflore rien parce que de toute façon tout est dans le déroulé de l'action. Je voulais vous demander, parce que l'humanité qu'il rencontre, qu'il voit là, à l'œuvre, dans le fond, c'est une humanité qui est à désespérer. Vous la voyez comme ça, vous ?
Non, pas forcément entièrement à désespérer, mais c'est vrai que la guerre de tous contre tous est la menace permanente, que d'ailleurs, peut-être, dans notre pays, on a un peu oublié, après y avoir pourtant tant songé et en avoir tant souffert. C'est la menace... absolue. C'est la pire des guerres, celle de tous contre tous, parce que toutes les raisons deviennent valables et du jour au lendemain, toutes les pires travers du mimétisme, du désir inassouvi, on peut se dire qu'on va les résoudre en tuant l'autre et donc l'autre devient une menace alors même que l'autre devrait être un salut. Et je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Bernanos y disait que les optimistes étaient des imbéciles heureux et les pessimistes des imbéciles malheureux. Parce que les premiers pensent qu'il n'y a rien à faire, ça ira bien. Et les seconds pensent qu'il n'y a rien à faire, ça ira mal de toute façon.
Moi, alors, on ne va pas avoir le temps de parler de Lompen.
Oui,
finalement, là, il va trouver des gens bienveillants et combien dévoués. On ne parlera pas de leur fin, mais il le vit mal. On va laisser nos auditeurs lire cet ouvrage, il faut qu'ils le lisent. C'est le chaos chez ce petit garçon, on le comprend bien. Et il a du mal à s'abandonner, à faire confiance. Il y a un traumatisme tellement violent et tout. Peut-être, et c'est à ce moment-là surtout qu'il pleure. Je ne veux pas revenir sur les larmes, mais finalement, il lâche tout à ce moment-là.
Parce que quand il rentre à Phnom Penh, il trouve aussi des gens qui s'occupent de lui avec affection,
voilà.
Contrairement à la sorcière.
Oui.
Et donc, il ne veut pas, lui. Il ne veut pas que ça soit ça la solution. Il ne veut pas se dire, tiens, j'ai perdu mes parents et maintenant je vais vivre comme un orphelin dont on s'est bien occupé.
Oui.
Il ne veut pas être orphelin.
Oui. Alors, il y a les deux prêtres, le père Michel, frère Bruno, abnégation et dévouement total. Il s'occupe des nourrissons, il s'occupe de jeunes enfants. Il y a une forme une forte femme, oui, délurée, efficace, délurée, hein. Et puis une autre qui est toute douceur. Et puis il y a Vanak, le petit voyou, des personnages formidables. Il y a le journaliste du Monde. Et là, j'ai dit, ah, mon Dieu, Jean Lacouture. Oui, et là, je crois quand même qu'il y en a beaucoup qui ont fait acte de contrition, enfin du moins j'espère, puisque certains de ces gens-là ont soutenu les Khmers Rouges.
Oui, je voulais aussi montrer que le journaliste dans Phnom Penh, le problème technique, c'est qu'il peut pas se rendre dans le pays,
oui, oui.
Et la guerre civile a lieu dans le pays, et du coup, la ville, elle, est assiégée, et lui, il rend compte de ce qu'il imagine en train de se passer dans le pays, et il peut pas savoir.
Voilà. Alors, bon, ce livre, avant la longue flamme rouge, il faudra lire l'incipit, c'est un impact. Vraiment, on n'en sort pas indemne, il bouleverse, il interroge, on se pose beaucoup de questions sur le mal. Hein, c'est un peu le livre de Job aussi. Hein, pourquoi cette innocence comme ça punie? On n'a pas de réponse. Hein, on le sait, on n'a pas de réponse. Et puis, on pourrait dire aussi, ouf, je ne lirai pas ça, c'est trop dur. Alors, c'est vrai que se réfugier dans un confort paisible que vous avez mentionné tout à l'heure, voir la guerre à l'écran et se lamenter, nous qui avons souvent des mots à la bouche de bienveillance, d'écoute, de partage, bon, je crois qu'il faut avoir au moins le courage de savoir ce qui se passe, même actuellement.
Exactement.
Voilà. En tout cas, Guillaume Cyr, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman avant la longue flamme rouge. Attention, un roman, mais il y a une surprise à la fin de l'ouvrage. Donc, Guillaume Cyr, l'auteur, et c'est édité chez Calman Lévy. Au revoir, merci.
Merci beaucoup.